Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
Cube Radio.
C'est une histoire absolument sordide. Un homme qui s'appelle Alain Lavallée, 56 ans, qui est accusé d'avoir agressé une enfant de la DPJ pendant 4 ans dans un foyer d'accueil à Lanaudière qui était tenu par sa conjointe. Donc, il aurait agressé. Il aurait peut-être même fait d'autres victimes. C'est vraiment absolument sordide. Ça donne des frissons dans le dos. Et c'est le sujet dont Marie-Claude Barrette avait envie de nous parler ce matin. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour, Sophie.
C'est vraiment le sous-sol de l'horreur.
Moi, on s'habitue pas à lire des nouvelles comme ça, puis il faut surtout pas s'habituer non plus, mais ça vient me chercher dans le plus profond. Ça, c'est une colère hein, qui monte quand on lit des choses comme ça. Tu sais, déjà, des enfants qui sont dans des maisons d'accueil comme celle-là, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de chance avant. Il y a eu déjà
des poquets.
Ouais. Exactement. Tu te ramasses pas là quand ça va bien, puis dans une famille équilibrée, c'est que tu as déjà eu des parents, un père, une mère, qui ont été inadéquats, faut dire les mots, là, inadéquats tellement à un point tel qu'on a dû te retirer de la maison et de t'envoyer dans un foyer d'accueil qui devrait. Naturellement, c'est des gens qui font ça sur une base volontaire, rémunérée. Évidemment, sont rémunérés, mais c'est eux qui se manifestent. On n'oblige personne à être famille d'accueil au Québec. Et ces gens-là qui se manifestent volontairement, finalement, ce qu'elles offrent, c'est, dans ce cas-là, la jeune fille se fait agresser sexuellement. On peut imaginer la détresse. C'est une jeune fille de 16 ans. Et elle s'est fait agresser quand même un certain temps, c'est ce qu'elle dit. Alors, on peut imaginer, Sophie, la détresse, à qui tu parles, à qui tu dis ça. Et, tu sais, moi, je te le dis, j'ai vraiment de la misère à croire que les deux, la conjointe ne savait rien. Moi, j'ai toujours un doute par rapport à ça, parce qu'il l'a agressé pendant 4 ans, là. Alors, c'est sûr que pourquoi on est foyer d'accueil quand des choses comme ça arrivent? Il y a plusieurs questions à se poser par rapport à ça.
Mais je trouve ça extrêmement intéressant que tu amènes ce point-là parce que, écoute, c'est moi, à chaque fois qu'il arrive un cas comme ça, et il y en a eu pourtant au cours des années des cas où, même si c'est dans leur propre famille, une femme ou un gars est agressé par son père ou par un oncle, et les gens autour disent, on avait aucun indice, on n'a rien vu, on n'a rien. Écoute, je veux dire, tu vis dans la même maison, je veux dire, puis à un moment donné, l'enfant a un comportement, je veux dire, si ton enfant, qui est ton enfant, ton propre enfant, ou même l'enfant dont tu as la garde, dont tu as la responsabilité, si à chaque fois que, mettons, ton conjoint rentre dans une pièce, cet enfant-là commence à trembler ou avoir un drôle de comportement ou un comportement craintif, il me semble que ça devrait te mettre la puce à l'oreille. J'ai énormément, comme toi, de difficultés à imaginer que ton instinct, ton sixième sens ne rentre jamais. Je pense qu'il y a beaucoup de déni, il y a beaucoup d'aveuglement volontaire.
J'ai interviewé souvent des gens qui m'ont dit qu'ils avaient été agressés sexuellement, soit par des gens de leur famille, soit dans des foyers d'accueil. Et il y en a qui m'ont dit, je l'ai dit, je l'ai nommé, il y en a qui m'ont dit, je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à la blonde de mon père, et on m'a dit, arrête de dire des niaiseries comme ça, arrête de t'inventer des histoires. C'est épouvantable le déni qu'on peut faire d'accusations, de faits aussi graves qui vont teinter le reste de ta vie, là.
Absolument. Et ce que je trouve terrible dans ce cas en particulier, donc les accusations sont déposées, donc évidemment, il y a tout le monde a le droit de bénéficier de la présomption d'innocence. Donc c'est la justice qui va nous démontrer si ces accusations sont valides ou pas. Donc ça va être se confirmer dans une cour de justice. Mais moi, je pense à cette jeune fille-là. Et tu dis, bon, c'est ça, elle a 16 ans, les faits se sont produits, elle avait moins de 12 ans. Tu commences dans la vie, c'est quoi ta confiance dans la société où t'évolues? C'est-à-dire que, premièrement, tes parents, tu peux pas leur faire confiance. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont inadéquats. Donc, la société te prend en charge et te dit, on va te confier à monsieur et madame X qui, eux, vont prendre soin de toi. C'est la façon dont nous, la société, on te couvre, on te protège. Et ouais, en fait, on filet. Te met, voilà, et on te met dans la gueule du loup. T'es une petite brebis qu'on veut protéger, puis au lieu de te protéger, on t'envoie. Alors moi, je me dis, cette jeune fille-là, elle a été doublement déçue de la vie, doublement déçue de la société. Quel genre d'adulte ça va faire? Briser, et non seulement briser physiquement, mais sa confiance dans les adultes, sa confiance dans l'être humain, est-ce que ça peut se réparer?
Ben écoute, c'est parce que disons que tu pars de loin, ça veut dire que déjà il faudrait qu'elle ait un suivi, qu'elle bâtisse des liens de confiance avec des adultes probablement autour d'elle, parce que là tu regardes dans l'univers dans lequel elle est, il y a absolument rien de rose là-dedans. Tu sais, c'est moi je me souviens, j'ai interviewé, tu as dû le faire aussi, Régine Laurent, moi dans le cadre du documentaire Culte religieux des enfants oubliés que j'ai tourné l'an passé.
Excellent documentaire, Marie-Claude, excellent documentaire. Je te laisse continuer.
Ah, mais où j'ai parlé à un directeur de la DPJ à la retraite, là, tu sais, qui a fait des rapports, qui a enquêté, qui a essayé de comprendre. Puis tu sais, il disait un des problèmes là, c'est que ça prendrait encore plus de formation pour les intervenants. Ça prendrait aussi plus d'intervenants parce que il faut entendre les jeunes. Tu sais, il y a plein de jeunes qui sont mis en foyer d'accueil et qu'on ne demande jamais comment ça va, comment ça se passe, à qui ils vont dire ça. Et le choix des familles d'accueil. Tu sais, puis il disait aussi, on a beaucoup de gens qui ont peu d'expérience de vie. Il dit, c'est pas un reproche. Sauf que c'est dur de faire le choix de sortir un enfant de sa famille et dire, il va être mieux ailleurs que dans sa famille. Tu sais, c'est pas évident.
Non, c'est pas évident.
On va toujours dire que t'es mieux avec tes parents, mais il y a des parents qui ne peuvent pas, qui sont absolument inadéquats. On n'a pas le choix de sortir les enfants. Tu les places où? Et le choix de ces familles-là, moi, je trouve qu'il manque de suivi. On devrait avoir cet homme-là, là, puis on se demande est-ce qu'il en aurait abusé d'autres. Ça fait quand même 20 ans que sa conjointe est famille d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ça? Et ça, c'est inquiétant. Et Régine Laurent, quand elle a mis en place là, la commission, le rapport de la commission spéciale des droits de la personne et des droits des jeunes. Moi, je me souviens quand j'ai interviewé, elle a pleuré. Elle disait, je n'en revenais pas de ce que j'entendais, parce qu'elle n'était pas dans ce milieu-là. Elle était dans le milieu de la santé, infirmière, exactement. Donc, tu sais, je pense que des fois, quand on est dans le milieu longtemps, on est moins choqué peut-être parce qu'on entend tellement, on en voit tellement, mais quand t'es de l'extérieur, elle en pleurait, elle dit, c'est incroyable ce que j'ai entendu, il faut arrêter ça parce qu'il y a personne, c'est comme si nos enfants, une fois qu'ils sont placés dans un foyer d'accueil, on se dit, bon, ben on a fait ce qu'on avait à faire,
affaire classée, mais il y a aussi donc deux choses, donc ça prendrait beaucoup plus de personnel, la DPJ, en effet, du personnel mieux formé pour aussi, puis avoir du temps, Marie-Claude. Oui, comment veux-tu, tu es un intervenant de la DPJ, mettons 150, 200 cas dont il faut, 200 dossiers dont il faut que tu t'occupes, comment penses-tu que ces gens-là vont avoir le temps de s'asseoir avec chacun des enfants, de les laisser parler, parce que tu sais, un enfant là, c'est pas spontané, il va pas spontanément venir te voir en disant mon oncle Gérard il a touché à mon oui-oui, là c'est pas comme ça que ça marche, il faut que tu lui laisses le temps, il faut que tu établisses un lien de confiance avec les enfants, donc ça c'est la première chose, donc pénurie de personnel, pénurie de personnel bien formé, pénurie de temps, et aussi pénurie de familles d'accueil parce que on en manque, puis parfois on prend des moins bonnes familles d'accueil parce que des très bonnes familles d'accueil ne sont pas disponibles. Donc ça c'est deux choses dont il faut absolument tenir compte. Marie-Claude.
Je veux absolument
parler de ton deuxième sujet.
Oui.
Donc tu as une amie qui a fait un post Facebook au sujet de la pesée des élèves à l'école. Écoute, on a l'impression que c'est du bétail. Comment ça se fait qu'on continue à faire ça dans les écoles, de peser les élèves devant les autres?
Ben, écoute, je vais juste te lire. Ça commence, là. Je suis en sacrement. C'est ce qu'elle dit. C'est mon amie Chantal. Elle s'appelle Chantal Derry.
Salue Chantal. Moi, j'aime ça, les gens qui sont en sacrement.
Bon, en sacrement, comment encore en 2021, dans un cours d'éducation physique au cégep, je vais taire lequel? Les jeunes adultes doivent subir une pesée devant les autres comme du bétail. Là, elle dit un gros mot, genre hostie. Abolition de cette pratique de merde. Je suis vraiment fâchée. Dites à vos enfants de refuser. Et ça, c'est suite à quelqu'un qui est proche d'elle qui a subi ça, puis disait « j'en reviens pas ». Et moi, ça m'a retourné dans mon passé. Et je me disais, moi, je me souviens au secondaire, quand le prof d'éducation physique mettait la balance, la grosse balance avec l'affaire de...
La petite aiguille, là.
Là, qui déplaçait, là, tu sais, en haut. Et on était en rang derrière, puis on se faisait peser les uns les autres. Après ça, ils nous mettaient une affaire sur le ventre, puis ils mesuraient notre bras. Mais je me disais, mais pourquoi? Mettons que tu veux te mettre tout le monde en forme. T'as-tu vraiment besoin de... T'sais, on n'est pas chez Weight Watchers où on paye pour se faire peser, là. C'est pas ça. Ça devrait être sur... Si on veut le faire, bien, faisons-le sur une base volontaire. Parce que ça crée vraiment des... ça peut créer de l'intimidation sur le poids. Déjà, quand t'es pas bien dans ta peau, bien, t'endors pas la veille parce que tu sais que le lendemain, tu vas passer à la peser. Puis c'est pas juste ceux qui sont en surpoids, là. C'est pour tout le monde. Il y en a, là, aussi, qu'ils ont d'autres problèmes alimentaires, puis ils veulent pas non plus qu'on sache leur poids.
Tout à fait.
Puis il y en a qui en ont pas, puis ils deviennent avec un problème.
Voilà, ça va créer justement cette obsession du poids peut créer justement chez les gens qui n'en ont pas de troubles alimentaires. Tu sais, mettons, tu pèses, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, tu pèses 100 livres, puis la fille à côté pèse 98, puis là tu te dis, oh mon Dieu, je suis énorme, va falloir que je perde 2 livres pour être aussi mince qu'elle. Je veux dire, ça crée une sorte de sentiment d'être inadéquate. Cependant, Marie-Claude, je te permets, tu sais, parce que on est souvent d'accord. Là, je veux juste me faire l'avocat du diable 2 minutes, OK? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent, regarde, t'es dans un cours d'éducation physique, l'objectif, c'est... pourquoi il y a des cours d'éducation physique au cégep ou au secondaire? Ben, c'est parce qu'on veut que, tu sais, un esprit sain dans un corps sain, on veut que les élèves, les étudiants soient dans leur meilleure forme physique possible. On peut pas faire fi, Marie-Claude, du fait qu'il y a une épidémie d'obésité, de surpoids, et on sait en particulier avec la COVID en ce moment que c'est une comorbidité, c'est un facteur aggravant de la COVID, le surpoids. Donc, je fais juste l'avocat du diable, Marie-Claude. Est-ce que c'est possible que peut-être de le faire différemment, de sensibiliser quand même les étudiants au fait qu'il y a un poids qui peut être un poids santé, pas les humilier, mais les sensibiliser. Est-ce qu'on peut faire ça?
Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, je pense que quand tu es en surpoids, ça se voit assez facilement. S'il y a quelque chose que tu peux pas cacher dans la vie, c'est bien un surpoids. Donc, est-ce que tu es vraiment obligé de le quantifier? Est-ce que l'objectif, c'est pas d'être en forme, de parler des bonnes habitudes de vie, de parler de l'exercice, de la bouffe? Est-ce que tu es obligé de viser? Est-ce que les cours d'éducation physique donnent des régimes? Est-ce que les cours d'éducation physique, c'est un endroit pour perdre du poids ou c'est un endroit pour être en forme, pour faire de l'exercice, pour bouger? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on est obligé de connaître mon poids pour me faire bouger? Moi, je pense que l'objectif, c'est ça. Et si on décide de faire une pesée, moi, je pense qu'il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit sur une base volontaire. Il faut que ça se fasse de façon discrète. Ces affaires-là de mettre une balance, puis mettez-vous en rang d'oignon, puis let's go, on se pèse, ça ne fonctionne pas. Moi, là, je pense qu'on essaie de tout ce qui brime la confiance en soi. On parle tellement de la confiance en soi, à quel point c'est important.
Absolument.
Mais si une pesée vient fucker ta confiance en soi, ben moi, je veux comprendre pourquoi on fait une pesée. Puis je continue à dire que si c'est parce que c'est l'obésité, ben si un prof d'éducation physique ou n'importe qui n'est pas capable de voir que la personne est en surpoids, on a un problème. Et si la personne qui est en surpoids décide qu'elle est bien comme ça, ben garde. Mais moi, je pense qu'on doit les sensibiliser. C'est ça l'objectif.
Voilà.
De toute façon, tu bouges en éducation physique. Fait que, est-ce qu'il va bouger plus ou moins parce qu'on sait son poids? Est-ce qu'on fait de la discrimination basée sur le poids? Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Et moi, écoute, moi, je m'oppose à ça, mais complètement, à moins que ce soit sur une base volontaire. Là, tu sais, on a le droit.
Oui, Puis aussi, c'est que, pour aller dans ton sens, Marie-Claude, c'est que la raison pour laquelle on pèse les gens, c'est que c'est toujours la même maudite affaire de l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est qu'on fait un calcul assez simple à faire, le poids versus la grandeur. Là, c'est un calcul qu'on fait. Puis là, ça donne un montant. Ouais. Ce montant-là, ce chiffre-là magique, c'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Puis vous pouvez trouver ça très facilement. Là, vous avez juste à googler ça, vous allez le voir. Si tu as un indice corporel, de masse corporelle de moins de 30 ou de plus de 40, en tout cas, peu importe, là, on dit, est-ce que tu es dans une zone où ta santé est mise en danger? Est-ce que... Et ça vaut aussi pour les gens qui sont en sous-poids, hein, pour les gens qui sont trop minces. Mais il y a plein de scientifiques qui disent le IMC, ça n'est pas un bon indicateur de santé. Donc, je comprends pas que dans les cégeps, on continue à faire la pesée, alors que c'est démontré que c'est c'est pas relié, c'est pas un bon indicateur.
Mais Sophie, si on veut connaître un IMC, ils peuvent mettre une balance d'un coin. La personne, elle va se peser quand t'as vu sur ton téléphone, tu fais ton calcul, puis ça te donne ton... Hey, c'est une affaire qui prend 2 secondes. T'as pas besoin d'être humilié pour avoir ton... Mais sinon, ils veulent l'IMC, t'as pas besoin d'être humilié. Fait que moi, je pense que, tu sais, on essaie de dire à l'école, ayez confiance en soi, on veut avoir des jeunes équilibrés. Ben, il y a des mesures que je trouve... Ça, c'est très limite comme mesure. Et je ne comprends pas que c'est pas sur une base volontaire. Maud, ça me semble pas dur à comprendre que c'est humiliant. On est-tu obligé de vivre ça? Puis en plus, là, il y a c'est le poids, l'aspect physique, ça peut détruire des vies. Il y a des gens là tu sais, comme tantôt, c'est drôle, je parlais de ça avec quelqu'un ici à TVA, puis il me disait, moi, je me souviens juste les vestiaires à l'école avant l'éducation physique, on changeait tout ensemble. Déjà, c'est l'enfer, notre corps.
À l'adolescence, Marie-Claude, t'es là, tu te regardes dans le miroir, tu te trouves tout croche, trop moche, t'as les bras trop grands par rapport à ton tronc, puis t'es toujours en train de regarder les autres, te comparer. Ah, elle a plus de sang, elle a moins de sang. Ah, regardons, elle a des belles jambes, moi, j'ai pas des...
T'sais, mais tu te trouves des défauts que tu savais pas que t'avais.
Que tu savais pas que t'avais. Disons, c'est très, très, très... C'est un âge qui est extrêmement ingrat, qui est extrêmement difficile pour les garçons, pour les filles. Mettons fin. Moi, là, je trouve ça, là... Écoute, ton amie, là, Chantal, quand t'as dit la comparaison avec le bétail, c'est tellement ça. Arrêtons cette pratique rétrograde d'humilier les élèves en les pesant comme si c'était des veaux ou des taureaux. Oui. C'est vraiment là...
Mettons-le en forme, parle-leur, il faut leur parler des bonnes habitudes de vie, puis si leur poids, ils veulent le prendre, bien, ils ont juste à aller eux-mêmes sur la peser et ils sont pas obligés de le dire à personne. Alors moi, je pense que ça nous appartient, c'est un choix et on ne peut pas imposer cette humiliation pour plusieurs. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais il y en a plusieurs pour qui ça ne passe pas.
Est-ce que c'est la première fois que je t'entends sacré en onde? Oui!
Ben, peut-être.
Vendredi 17 septembre, Marie-Claude Barrette, je l'ai fait sacré en onde. Hey, merci beaucoup, je t'embrasse.
Merci
beaucoup, j'ai beaucoup aimé notre échange, puis j'ai déjà hâte à lundi. Passe une excellente fin de semaine, Marie-Claude.
Merci, bye-bye tout le monde, bye-bye.